Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maïf, assureur de référence des tiers-lieux en France.
Pourquoi ? Parce que comme nous, la Maïf souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable.
Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maïf pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle !
Il y a peu de lieux où tu te dis « je peux aller comme ça, quand tu veux, voir des gens, puis tu sais jamais sur qui tu vas tomber, mais tu tombes toujours sur quelqu'un ».
On a des copains qui sont devenus musiciens sur le tard pour avoir essayé des trucs sans trop le dire dans les caves de la MJC Lillebonne. Et c'est devenu des sacrés musiciens.
C'est un dédale, c'est un nid d'humanité, c'est un lieu des possibles.
Salut, c'est Déborah.
Salut, c'est Anaïs.
Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3 de Tête Beaulieu. Pendant cette saison, on a décidé de faire un pas de côté pour vous faire découvrir les lieux qui ont ou auraient pu inspirer, de près ou de loin, le mouvement des tiers-lieux.
On va redécouvrir des lieux du social, de la culture, de l'éducation populaire ou encore de l'écologie. Et cette fois-ci, on pose nos valises à la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Lillebonne, une véritable institution de la culture et de l'éducation pop à Nancy.
En gros, ça s'appelle une MJC. Et alors, pourquoi une MJC ? Eh bien, parce qu'on pense que ces lieux, ainsi que les tiers-lieux, ont énormément de points communs, que ce soit dans leurs activités ou dans leur utilité sociale.
Alors, accrochez vos ceintures, ça va swinguer sec avec Anouchka, Albert, Laurence, Yves, Françoise, Gabriel et bien d'autres encore.
Ah bah ça, pour swinguer, c'est le cas de le dire, hein. Vous n'êtes pas prêts. Il est 17h32, on arrive sous une mini éclaircie dans la capitale de l'Art Nouveau. C'est le style de tous les arrêts de métro parisiens, tu sais, avec les courbes rondes, les sensuels.
C'est clair qu'on ne peut pas louper ça. Tu vois ce bâtiment là en face ?
C'est exactement ça, un truc un peu floral avec plein de rondeurs.
Tiens-toi prête, j'ai une deuxième question culture G pour toi. C'est quoi la confiserie la plus réputée de Nancy ? Tic-tac.
Bah, là j'avoue, je sèche.
Les macarons de Nancy. Mais attention, on parle pas du truc à deux étages avec le cœur fondant. Non, on parle du petit gâteau à l'amaretto italien, tu vois.
Ah, mais je vois en fait, j'ai même mis cette question-là dans le trivia de poursuite. Bon, mais passons les cours de cuisine si tu veux bien. On va se prendre une grosse drage dans la figure si ça continue. Et là, on n'est clairement pas équipé. Bon, plus que 5 minutes et on est arrivé. On n'a plus qu'à s'enfoncer un tout petit peu au cœur du centre-ville, un peu plus près de la place Stanislas. C'est la place emblématique de la ville.
Waouh, mais c'est l'alu ces bâtiments. On passe d'une place très versaillaise, disons-le, à des bâtiments tout droit sortis du Moyen-Âge. Le Gap.
Exactement. C'est une ville qui mêle vraiment plein de styles différents, avec un tout petit centre en plus. Il paraît qu'il y a même plus de 400 monuments historiques à Nancy. T'imagines, c'est quand même pas rien.
Hé, attends, tu vois là ce que je vois ? C'est bien la MJC Lillebonne en face. On dirait plutôt un hôtel particulier, dis donc. C'est la grande classe.
En tout cas, il y a une pancarte devant, donc a priori, on s'est pas trompé. Et j'entends un peu de musique tzigane au loin d'ailleurs. C'est sûrement les répètes des concerts de ce soir.
Allez, rentrons. On va rencontrer Anouchka qui nous attend à l'intérieur dans la première cour du bâtiment.
Ah pardon, parce qu'en plus, il y a des cours. Non mais...
Eh oui.
Moi, c'est Anouchka. Je fais partie de l'orga du Tsiga Nancy Festival depuis cette année et donc je suis bénévole depuis 2 ans. Le festival, je le connais depuis 2017 et donc, depuis 2017, je l'ai fait chaque année. Ça faisait assez longtemps que je voulais rejoindre l'équipe, donc c'est chose faite depuis 2 ans. Là, on se trouve à la MJC Lillebonne qui est, il me semble, un ancien hôtel particulier, je dirais 17e siècle. Donc on est dans... comment dire, entourée d'une architecture assez, assez particulière, de la vieille pierre, des escaliers qui grincent, des balustrades en fer forgé. Moi, je trouve ça très joli, surtout quand on est en fin de soirée avec les concerts, les escaliers donnent sur la scène, c'est illuminé, il y a une ambiance un peu Roméo et Juliette, c'est assez rigolo d'ailleurs, vous verrez ça ce soir. Et ouais, c'est un lieu qui me tient très à cœur, parce que bah, il fait se rencontrer énormément de monde, ça fourmille de partout. Il y a un centre aéré qui côtoie des gens qui répètent, de la danse Bollywood, les gens de la MJC, Albert qui traîne toujours dans les couloirs, voilà. On en parlait avec des copains qui eux n'organisent pas du tout de festival, mais c'est un peu le réflexe de bah il se passe rien à Nancy, qu'est-ce qui se passe à la MJC? Parce qu'il se passe toujours quelque chose à la MJC, que ce soit des festivals autour des jeux de société, que ce soit des spectacles de danse, que ce soit des concerts. C'est un espèce de réflexe de point de chute qui c'est un centre névralgique pour moi de la culture, puis de la culture populaire surtout à Nancy. Ouais, ça représente beaucoup.
Bon, ben, je crois que le tableau est assez bien planté, hein. Ça a l'air d'un vrai gruyère, ce bâtiment. Et tellement, tellement immense.
Ouais, et en tout cas, c'est vrai que cette première cour intérieure est à tomber par terre. À la tombée de la nuit, avec les éclairages et la musique tzigane, là, ça va être pépite.
Ah, je vois un monsieur à la crinière grisonnante avec une belle chemisette à fleurs là-bas. C'est notre cher Yves, non? Le directeur de la MJC.
Franchement, vu sa chemisette, j'ai très envie d'aller saluer.
La MJC Lillebonne, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, d'un point de vue bâtiment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est une chance d'avoir en centre-ville un équipement de cette nature, parce qu'il y a... Bon, selon la police, 4600, selon les mètres carrés, et selon les occupants, bah parfois on dit 5000, 5400. Bon, bref, en fait, c'est un bâtiment qui est vraiment énorme. Ça dépend si on compte les cours intérieurs ou pas, en fait. C'est un bâtiment qui est énorme, hein. Il y a 43 ou 46 pièces, il y a 11 cages d'escalier, c'est une espèce d'entrelacs de bâtiments qui ont été rassemblés autour d'un bâtiment principal, donc qui est l'hôtel de Lillebonne, donc qui est patrimoine historique ville de Nancy, dont l'escalier d'ailleurs est répertorié comme étant par la DRAC. Et ce lieu-là est vraiment un lieu polyvalent parce que on a toujours depuis fort longtemps veillé à ce que il ne soit pas trop spécialisé. C'est-à-dire que la salle de spectacle, par exemple, du premier étage, on a fait en sorte qu'elle ne soit pas trop spécialisée, parce que sinon, s'il y avait des sièges inamovibles, s'il y avait une scène inamovible, s'il y avait des vrais éclairages ou des choses comme ça, donc ce qui fait que là-dedans, on a bien conscience qu'on fait un peu du bricolage, mais l'avantage, c'est qu'on fait ce qu'on veut, on bricole ce qu'on veut. Le plancher, alors pareil, les bâtiments sont en bon état, mais l'idée, c'est que ça ne soit pas non plus trop rénové, c'est-à-dire qu'on puisse quand même garder la liberté à un moment donné de mettre un clou dans un mur, parce que le gros inconvénient des bâtiments qui sont neufs ou rénovés, c'est que c'est très compliqué à les faire évoluer en fonction des besoins des utilisations, parce que c'est trop beau, donc on va quand même pas commencer à mettre des clous, sinon ça fait des trous, voilà. Donc on a la chance d'avoir cet équipement-là qui est à la fois énorme, qui est à la fois pas trop adapté, mais qui nous permet justement de l'utiliser au mieux des capacités, et puis surtout de changer, de le faire évoluer, quoi. C'est vrai que c'est une vraie chance, et puis d'avoir ça en centre-ville, c'est aussi une chance assez incroyable. Donc mais en même temps, on considère que c'est vraiment important, y compris pour certaines formes d'activité ou d'esthétique, artistique ou autre, que ça puisse avoir son expression en plein centre-ville et que ça soit pas relégué dans un quartier ou dans... On fait un festival depuis des années qui s'appelle Donke, autour de la culture africaine, et c'est vrai que c'est important que ça se passe en centre-ville, voilà, qui est à un moment donné... de la musique, qui est à un moment donné de la danse et d'autres choses, et que ça soit là et pas dans un quartier.
Elle est littéralement somptueuse, cette MJC. On n'avait jamais fait encore un lieu du 15e siècle, ça claque.
Eh bah ça pour claquer, ça claque, hein. Eh mais attends, mais c'est bientôt l'heure du premier concert. On n'a même pas encore parlé de ce qui se passait ce week-end. Et bien en fait, ce week-end, c'est la 10e édition du Tsiga Nancy Festival. Il paraît que c'est devenu, en quelques années, un événement de référence à la MJC.
Tu m'étonnes, et à voir toutes celles et ceux qui sont déjà accoudés au bar malgré toute cette pluie, je n'en doute pas une seule seconde. Ils sont vaillants quand même à Nancy. Hein. C'est pas à Marseille que ça arriverait, je te le dis.
Ah bah ça. Et d'ailleurs, Yves nous a parlé d'un certain Albert tout à l'heure. C'est l'homme à tout faire, le...
Magic Boy ?
Magic Boy, voilà. Le vrai couteau suisse qui a une solution pour tout ici.
Oui, c'est un peu le gardien des lieux, quoi. Notre passe-partout.
Exactement. Bon, bref, il faut absolument qu'on le rencontre. On l'appelle ? Albert ?
Albert !
Alors, je m'appelle Albert, on est à la MJC Lillebonne, dans la cour. Première cour, parce qu'il y en a deux. Je peux me retrouver à gérer des entreprises pour les travaux, ou réparer des choses, des clonches cassées, des ampoules qui tombent, installer des scènes de concert aussi. La journée n'est jamais la même, et la semaine non plus d'ailleurs. Il y a toujours un truc différent. C'est pour ça qu'ils m'appellent le couteau suisse. En fait, moi je suis arrivé à Lillebonne par hasard. En fait, moi j'étais au haut du lièvre dans une MJ, formation de NPE, comme ils disent si bien. Et en fait, je me faisais chier là-haut, carrément. Et du coup, il y a un animateur qui était ici, qui est formateur là-haut, qui m'a dit « ça t'intéresse de venir à Lillebonne ?» Et j'ai commencé par faire l'accueil. Voilà, pendant deux heures, entre midi et deux, pour remplacer la personne qui devait aller manger, quoi. Et au fil du temps, bah, après, je suis rentré à plein temps. Et là, ça fait 17 ans que je suis passé dans le statut de la fonction publique. Mais toujours en restant dans la maison. C'est un peu ma deuxième maison, quoi. C'est un peu mon château fort. C'est vraiment, ouais, c'est cette baraque, je la connais pratiquement par cœur. Mais ouais, c'est mon bébé en fait. J'ai appris à l'apprivoiser, façon de parler. Et puis voilà, moi je suis assez content. Et je veux terminer ma carrière ici, à moins qu'on me mette ailleurs, mais non, non. Et il faut savoir que dans les 7 MJC, il n'y a plus que 7 MJ où il y a des fonctionnaires qui restent encore. Le personnel, on est un peu une famille, on travaille en commun, quoi. On est capable d'aider un collègue s'il est dans la muse, et puis je gère ça, quoi. On est vraiment une petite famille, alors c'est peut-être pas le cas partout, mais nous, on a un petit groupe solidaire.
Eh ben donc, moi, c'est Floriane, je travaille comme chargée de communication ici, et ça fait bientôt 15 ans que je travaille là. Par rapport au principe de gouvernance, moi, ce que j'aime bien ici, justement, c'est qu'il y a, bon, y a Yves, qui est directeur de la MJC, donc qui est, entre guillemets, le chef. Mais après, il y a, si on fait un organigramme, souvent, il y a des stagiaires qui viennent, qui nous demandent un organigramme. Mais sauf qu'en fait, ici, il n'y a pas du tout de chef ou de sous-chef ou de sous-sous-chef. C'est tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de lui, il est au-dessus de lui, il est au-dessus, pas du tout. C'est, donc, il y a Yves, et après, tout le personnel, que ce soit les femmes de ménage, les animateurs, les administratifs, etc. Si on faisait un organigramme, ce serait tout sur la même ligne. Et ça, c'est plutôt hyper intéressant. Et au niveau des décisions, en tout cas, chacun peut avoir, peut être pris, enfin, être décisionnaire sur un projet qu'il a envie, peut donner son avis. Et après, forcément, c'est Yves qui aura toujours le mot final, mais en plus, il est très ouvert sur chacun. Il prend en compte les avis et de tout le monde. Donc, c'est plutôt très linéaire pour le coup.
Alors, niveau principe de gouvernance, on peut dire que cette MJC est vraiment dans la même lignée que beaucoup de tiers-lieux qu'on a rencontrés.
Tu as raison, mais après, toutes les MJC ne se valent pas. Ni même tous les tiers-lieux d'ailleurs, malgré ce qu'on peut dire.
Par contre, j'ai quand même l'impression qu'on voit de plus en plus ces principes de gouvernance partagée et horizontale grappiller du terrain. Dans des entreprises, des assos, des institutions. Et c'est pas pour me déplaire.
Mais il y a quand même encore un bon bout de chemin à faire. Ces principes de faire équipe, diriger des projets différemment, partager les pouvoirs, ça reste parfois justement des grands principes.
À la fin, si c'est une seule personne qui a le droit de valider ou invalider une décision malgré tout, le processus démocratique n'est pas totalement abouti quand même.
Ouais, et puis la face cachée de ces grands principes, c'est qu'on part pas quand même tous avec le même capital culturel, financier, d'éducation, de valeurs même. Et ça, bah, ça crée des différences de positionnement évidentes dans certains groupes.
Ouais, je vois tout à fait de quoi tu parles. Et ça peut reproduire les inégalités qu'on voit dans la société en fait.
Bon, mais sinon, ça vient d'où en fait les MJC, tu sais toi ?
Ça date du tout début du XXe siècle. On parlait de maison pour tous à l'époque, jadis. La première en question portait le doux nom de la Mouffe, figure-toi, à Paris.
Ah, mais attends, mais moi je croyais que ça datait plutôt d'après-guerre, genre fin des années 40.
En fait, c'est la FFMJC, Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture, qui a été créée après-guerre, en 48, à la suite de la République des Jeunes. C'est un mouvement issu de la Résistance.
Eh ben dis donc, toi t'en sais déjà un rayon sur la MJC, hein. Bon, en tout cas, moi j'ai très envie de savoir comment ça fonctionne de l'intérieur, tout ça. Allons rencontrer Gaëtan. Il paraît que ça fait plus de 12 ans qu'il traîne ici à monter tout un tas de projets.
Les Duc Pop, moi je l'ai vécu par transposition par mon père qui aurait 102 ans aujourd'hui et donc a connu les premières maisons des jeunes et puis a grandi dans cet idéal de gauche d'un parti socialiste qui encore était à gauche avant Mitterrand. Donc j'ai vécu avec cet idéal où je pense que les MJC, les maisons, étaient vraiment directement des lieux de rencontre, des lieux d'émancipation, des lieux où on pouvait ouvrir la porte et aller taper le carton. Même si on avait un peu trop bu ou je sais pas quoi, même si on venait pas forcément faire une activité ou toutes ces choses-là, et que à terme, à cause de la société dominante, à cause de toute la pression qu'on va avoir sur le travail, sur la famille, sur plein de choses, c'est beaucoup plus compliqué pour les MJC, pour l'éducation populaire en général, de lutter contre ça. Et donc, j'ai l'impression que, et c'est une analyse qui est partagée par d'autres personnes, que j'ai dû lire aussi, hein, que l'Éduc Pop arrive à émanciper les gens. Mais en interne, beaucoup plus qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que les CMA, les organismes, à l'intérieur, il va y avoir, ça va pouvoir marcher. Il va y avoir des personnes qui vont pouvoir gravir les échelons, acquérir des diplômes grâce à ça, mais que par contre, l'action globale, générale sur la société, est beaucoup plus faible. Par exemple, ici, c'est très difficile. On est une MJC de centre-ville avec autour plein d'OH, les offices HLM. Et les personnes viennent très très rarement ici. Très très rarement ici. Déjà sur la façade, c'est marqué hôtel particulier Saint-Èvre. Le lieu, il fait flipper. Le lieu, quand on n'a pas l'habitude de regarder des musées, de se balader pour voir des vieilles pierres, c'est super compliqué. C'est pas complètement. Il y a du travail de fléchage de plein de choses. On explique, mais c'est quand même super, super complexe, quoi. On va parler de violence symbolique, mais arriver devant cette MJC, on sait pas trop ce que c'est et c'est assez compliqué. Je me dis d'arriver en disant, voilà, bonjour, moi j'aime bien faire ça, j'aimerais bien trouver 3-4 personnes pour faire ça. C'est quand même assez, assez complexe, quoi, par rapport à ça. Et donc, moi, je pense que un peu le pari de l'Éduc Pop et des MJC, c'est arriver à justement ne pas rentrer complètement dans le jeu des projets qui sont donnés par les institutions, les municipalités, la demande de subventions normées, avec des comptes à rendre, avec d'autres choses, des pertes de temps en réunion, et essayer à retrouver une action plus directe qui va pouvoir se passer.
Alors sur le modèle économique de la MJC, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des MJC dépendent pour beaucoup économiquement des mairies dans lesquelles elles sont installées. Généralement, les mairies sont propriétaires des locaux, ce qui est quand même déjà un apport énorme, et ensuite donnent une subvention de fonctionnement qui, dans la plupart des cas, permet une espèce de socle, un socle économique et financier, en fait, qui permet puisque la plupart des activités, sauf maintenant dans des mines, peut-être dans des secteurs très ruraux où l'activité de la MJC repose essentiellement sur des bénévoles. Dans toutes nos structures, les activités reposent sur des professionnels. Que ça soit pour l'administration ou pour les animations ou pour les enseignements qui sont dispensés. C'est-à-dire qu'il y a eu en parallèle, depuis les années 70, il y a eu un gros mouvement de professionnalisation de tous les intervenants de l'animation. Les MJC, pour beaucoup, alors c'est vraiment un point de vue tout à fait personnel, et puis que là je vais être obligé de dire de manière un peu tranchée, parce qu'il faut faire court, les MJC sont devenus pour beaucoup des prestataires de services, en faisant un travail qui est tout à fait intéressant, hein, à destination de population, à destination d'habitants, et donc sont des prestataires de services pour des municipalités. Et pour beaucoup, les MJC alignent des catalogues d'activités, activités d'ailleurs, et c'est aussi un risque à venir pour le milieu associatif, activités qui pourraient très bien être, exercées, proposées par le secteur privé. Et je pense d'ailleurs qu'il y a quelques organismes privés hein, qui lorgnent sur la partie de nos activités qui peut être lucrative. Moi, je serais pas, enfin, de toute façon, on le voit hein, déjà, l'enseignement de la musique, par exemple. Hein, il y a des sociétés qui proposent ces activités-là. Le sport, bien entendu, tout ce qui est activité sportive, tout ce qui est activité autour de ce que nous, on appelle les activités bien-être. Il y a un secteur privé qui le fait, etc. Et donc après, l'idée, c'est de dire, mais au bout du compte, qu'est-ce qui nous différencie ? Qu'est-ce qui nous permet, nous, de revendiquer l'idée qu'on est encore des structures d'éducation populaire, des structures où on cherche à l'émancipation des gens, où on cherche à accompagner des parcours. Qu'est-ce qui fait que ce qui était notre fondement, où est-ce qu'on le retrouve ? Moi, j'ai tendance à dire qu'on le retrouve à la marge. Mais voilà un peu comment est-ce que nous, on entend ici les choses. C'est tricoter les questions à la marge, c'est-à-dire partir de notre socle, bon ben voilà, qui existe, qui est là, pour pouvoir se fabriquer des petits espaces de liberté, de rencontre, de développement de projets possibles, et en sachant qu'en plus, ça demande pas forcément de moyens supplémentaires, ça demande juste une astuce, une attention, un truc.
Ça me parle beaucoup ce qu'il raconte, et je trouve ça plutôt très inspirant comme approche. Des structures comme ça, ça responsabilise et autonomise à fond les jeunes.
Et pas que les jeunes d'ailleurs. Ici, on accueille tout le monde, sans exception d'âge, de genre. Les MJC se revendiquent comme des lieux de rencontre et de création pour toutes et tous.
C'est un peu un lieu de tous les possibles en fait.
Oui, c'est ça.
Tu viens avec ton idée et tu vois ce que tu fais.
Ils essayent en tout cas. C'est ce que disait Yves tout à l'heure, mais tout a ses limites. Faut se battre auprès des collectivités pour conserver des budgets qui permettent tout ça. Et oui, toujours money, money, money.
Il y a quand même 65 salariés ici, dont 21 à temps plein. C'est pas rien.
Ah oui, quand même. En même temps, t'as vu tout ce qu'ils proposent ? 1000 cours de musique, de couture, de sérigraphie, des cours de danse, de théâtre, des cours de langue, de musique du monde. La liste est longue.
Je te le fais pas dire. Mais c'est quand même la musique qui prédomine ici. C'est même carrément une institution en fait de la musique. Ils ont des salles de répète de dingue pour la batterie, pour les fanfares, etc., etc. Il y en a une qui est d'ailleurs dirigée par Christelle, la prof de clarinette.
Ah oui, le fameux projet Fanfare et Spaghetti, c'est tellement génial ce combo de noms.
Ouais, j'adore aussi. C'est un festival qui a vu le jour il y a quelques années. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi ils appellent ça comme ça ?
Non.
Eh ben en fait, il y avait tout simplement plein d'Italiens dans ce groupe. Et donc ils se sont dit, basta così, on va s'appeler Fanfare Spaghetti.
Ah va bene. Et surtout que ce qui est encore plus cool, c'est que ce projet permet la rencontre de musiciens et musiciennes entre 8 et 90 ans. C'est pas génial ça ?
C'est essentiel en fait dans un contexte où les générations ont quand même bien du mal à se rencontrer, se mélanger, voire se comprendre. En fait oui, c'est carrément cool, c'est même vital.
Punaise, mais c'est déjà l'heure de la visite avec Albert. Tu sais, monsieur passe-partout de la MJC.
Eh ben c'est parti mon kiki !
Bravo ! Tu devais nous dire 3 mots que t'évoques ce lieu, ce serait lesquels spontanément ?
Danse, partage et joie.
L'effervescence, la bienveillance et l'accueil.
Convivialité, créativité et vitalité. Voilà.
C'est parti. Bon, on va monter au premier étage. Hein.
Ah,
voilà. Et bien là, on va aller dans la salle EG, la grande salle de conférence et de concert qui sert habituellement de temps en temps, quand il pleut dehors. Voilà, là, c'est la grande salle. C'est l'une des grandes salles qu'on a, en fait, au niveau de la MJ, quoi. Là, on est dans la partie théâtre. Hein. C'est là où il y a du ballet, des spectacles de théâtre, spectacles d'impro, voilà, plein de trucs.
Euh.
fait, le théâtre, sa logis, c'est 100 personnes minimum. Avec les acteurs, les comédiens aussi. Hein. Alors ici, on met 100, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. La salle de jeu, on a déjà dépassé plus de 100. Hier, c'était horrible. Ah, j'ai ouvert les fenêtres, c'était horrible hier. Ah, non. Bah, et surtout qu'il y avait des femmes enceintes qui étaient dans la salle en plus. Puis les personnes âgées, quoi, je veux dire. S'il y a une syncope.
C'est Albert, hein.
Non, 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 je ferai pas du bouche à bouche. Et là maintenant, on est dans la deuxième. Ça, c'est des salles de batterie.
Waouh!
À l'époque, c'était un grenier ici, en fait.
Ouais,
et on en a fait des salles de musique pour pouvoir pas être embêté avec le voisinage, quoi.
Et là, c'est bien insonorisé.
Là, c'est complètement insonorisé. En fait, t'entends rien du tout. Parce que c'est des styles de placo qui sont posés différemment. Voilà, et puis c'est du placo vachement épais, quoi.
Et là, alors du coup, c'est pareil. On a la partie du gymnase.
Mais c'est bon, c'est un gymnase, je dirais, avec les salles de gym, salles de danse, judo. Bah, la maison fait 6300 mètres carrés de surface.
Donc voilà, là vous entrez dans une imprimerie qui fait, je crois, 30 mètres carrés. Et donc, on est plongé ici, si on l'a fait hors lumière, mais il y a 130 ans. On utilise une technique, la typographie artisanale manuelle, sans électricité, si ce n'est la musique et la lumière. Et on dit qu'on travaille avec des caractères mobiles, comme Gutenberg, et la force animale. C'est notre force à nous, à Pauline et à moi, qui avons monté l'imprimerie il y a presque 5 ans maintenant. Et tout de suite, on arrive, on voit une presse typographique, c'est la vieille, c'est son nom. On n'est pas très originaux pour trouver les noms. C'est une presse à percussion. On va pouvoir se rapprocher parce qu'elle parle un peu d'elle-même. C'est une presse à percussion, c'est-à-dire que pour imprimer, il va falloir exercer une pression entre le papier, une forme, qui peuvent être des caractères, des gravures, et tout ça, et de l'encre. Et c'est avec cette pression qu'on va imprimer. Ça, c'est vraiment une vieille presse où on a dû apprendre la mécanique, on va dire, avec Pauline. Donc Pauline, elle sort des Beaux-Arts, et donc on est plutôt les intellos. Voilà, on va pas se mentir, réparer le vélo, c'est le maximum, et encore, c'est pas très bien réparé, quoi. Et donc, avec tout ça, on a dû, ce qui est très important pour nous politiquement, maîtriser nos outils de travail. On sait déjà qu'on détient un savoir qui maintenant est bourgeois, avant était ouvrier. Et déjà à l'époque, les typographes s'appelaient eux-mêmes les ouvriers aristocrates. Parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient lettrés par rapport à la plupart des autres ouvriers. Et donc, dans tout ça, il y a, dans nos affiches, on essaye en filigrane en tout cas de dire un peu ce qu'on pense, pour le coup, on est tout à fait conscient que nos messages, c'est vain, c'est à une toute petite échelle. Ce qui va vraiment compter, c'est comment on le fait. Avec Pauline, on a décidé des fois on a refusé déjà 3 contrats à cause du sexisme. Très vite, on s'est opposé à des pratiques, à des manières de nous parler, de nous commander des choses.
Mais dis donc, on n'a même pas présenté ce joyeux luron.
Ah mais oui, bien sûr, tu as raison. Eh bien, chers amis, c'était Gaëtan Manette, de l'imprimerie Bâtard.
En tout cas, moi j'ai vraiment adoré la visite avec Albert. C'est un vrai gruyère ici, t'avais raison. Il y a des salles de partout et pour tout.
Le potentiel est énorme. Tu sens une énergie foisonnante, ça fourmille dans tous les sens, à n'importe quelle heure. Tu rencontres toujours du monde qui rentre et sort, mais ça papote, quoi.
Ça papote, et c'est surtout un lieu incroyable pour innover, développer des initiatives. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. Rien n'est écrit à l'avance, que ce soit pour la culture ou d'autres domaines, d'ailleurs.
Et en parlant de culture, il y a quelqu'un de la mairie qui est de passage pour l'événement de ce week-end. Je te propose qu'on aille lui poser quelques questions.
Ah bah allons-y.
Alors, je suis Bertrand Masson, je suis adjoint au maire de Nancy. Je suis en charge de la culture, du patrimoine historique, des grands événements et des métiers d'art. J'ai cette responsabilité depuis l'été 2020, depuis les dernières élections municipales. L'histoire de Nancy est une histoire assez récente, puisque la ville de Nancy s'est vraiment développée à la fin du 15e siècle, après la victoire du duc de Lorraine René II contre Charles Téméraire, qui était le duc de Bourgogne et qui avait décidé de manger tout cru le duché de Lorraine pour agrandir son propre territoire. Mais Charles Téméraire est mort aux portes de la ville fortifiée. Et à partir de là, Nancy a grandi et s'est développée. Et en réalité, la MJC, elle est au cœur de la ville historique. Ce n'est pas un territoire immense, mais c'était vraiment... on est tout près, justement, du palais des ducs de Lorraine, vraiment à quelques pas. Et donc, la MJC, elle est dans ces hôtels particuliers du 15e, du 16e siècle, qui sont des hôtels donc voilà, de la Renaissance, fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne. Et là, vraiment, on est dans l'hyper-centre-ville de Nancy. On n'est pas très loin non plus de la place Stanislas, qui est sans doute l'espace le plus connu en France de Nancy. Puis c'est une ville qui bouge beaucoup. Moi qui suis adjoint à la culture, je ne peux que le constater tout le temps, parce que c'est une ville dynamique. C'est une ville qui compte un grand nombre d'étudiants. Et ça, c'est pour le dynamisme de la ville, c'est très important. Il y a plus de 55 000 étudiants à Nancy. Et sur une ville qui ne compte que 105 000 habitants. Donc le ratio nombre d'étudiants pour le nombre d'habitants est un des plus élevés de France, avec Montpellier. Et donc cette population étudiante participe vraiment toute l'année d'une belle dynamique. Donc il y a des événements toute l'année à Nancy, on ne s'ennuie jamais. Ce qui est important en matière de culture, c'est la diversité. Si on n'entretient pas, et si les pouvoirs publics n'entretiennent pas la diversité culturelle en donnant sa chance à toutes les esthétiques, quelles qu'elles soient. Je pense que là, on perdra beaucoup en qualité, y compris de relations humaines dans notre société. Et Dieu sait qu'elle est déjà parfois, cette relation humaine, mise à mal. Donc on a encore plus besoin de lieux comme ça. Et effectivement, de lieux aussi où du coup, une population très diverse va se côtoyer, parce que les uns viennent à un atelier yoga et les autres vont à un festival de musique expérimentale. Et autour de la buvette, dans cette cour dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les gens se retrouvent, se côtoient, échangent. Et ça, c'est une richesse exceptionnelle. Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, quel que soit son parcours ou son chemin, eh bien, on a le droit d'être dans la cité. J'ai dit tout à l'heure le droit de cité, mais du coup, ça renvoie à l'idée d'être dans la cité. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est ici, on ne peut pas être plus au centre de la ville de Nancy que dans cette MJC. Eh bien, que le cœur battant de la ville de Nancy, ce soit cette MJC, c'est une grande fierté.
Depuis sa création, il y a presque 50 ans, beaucoup de choses sont nées ici, surtout dans la musique.
Et j'ai le sentiment que ça en fait quelque chose d'incontournable, une référence.
D'ailleurs, pour la petite histoire, Laurence m'a parlé de la Naja. C'est Nancy Jazz Action, un groupe qui s'est monté dans les caves de la MJC juste après 68. Il y avait quand même 40 à 50 musiciens qui jouaient dans ces caves.
Waouh, ça devait improviser sec et sué jusqu'au bout de la nuit dans les caves de la MJ. J'aurais adoré voir ça.
Ouais, mais pas sentir par contre. Et en parlant de diversité culturelle, ce week-end, tu sais, c'est la musique cigane qui est à l'honneur. Écoute-moi ça.
Alors, je m'appelle Mustapha, je suis ici à la MJC Lillebonne, puisqu'avec des collègues de l'association que je préside, nous organisons le Tsiga Nancy Festival. Alors, comment est né cet événement? C'est un événement, en fait, qui a été créé par un petit collectif de personnes passionnées par la culture tsigane, et notamment le jazz manouche, la musique, des musiciens principalement, dont je fais partie. Et puis, on s'était dit, ce serait bien, en connaissant ce lieu, puisqu'on y venait assez régulièrement pour assister à des manifestations, des concerts, des spectacles, des événements culturels en tout genre, on s'est dit, ce serait bien que notre festival, si on organise quelque chose un peu de festif autour de la culture tsigane, que ça se passe ici à l'MJC Lillebonne, puisque le cadre s'y prête bien. Déjà, c'est une maison des jeunes et de la culture un peu atypique, puisqu'on est dans un bâtiment classé, un bâtiment monument historique, qui a une très belle cour avec un pied de vigne. Je ne sais pas combien d'années il a ce pied de vigne, mais qui du coup décore toutes les façades avec les vignes de la cour principale. Des escaliers qui font penser un peu à l'art italien, les balcons italiens, et en fait c'est un endroit tout simplement magnifique, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais, cet endroit. Et c'est surtout une maison des jeunes et de la culture. Et une maison des jeunes et de la culture, c'est un peu une maison qui est mise à disposition des citoyens, en fait, aussi, dès lors qu'on a un projet. C'est comme ça. Nous, quand on est arrivé tout jeuneau il y a 10 ans, pour voir le directeur et présenter un peu notre projet, il a tout de suite cru en nous en disant ouais, essayons. Et en fait, c'est une maison des jeunes de la culture, et c'est un peu ça l'ADN des MJC aussi. C'est de permettre en fait que les initiatives de collectifs, d'associations, des initiatives citoyennes puissent avoir lieu, puisque c'est une maison ressource, en fait. La Lorraine et l'Alsace sont sont deux territoires dans lesquels il y a une communauté manouche très importante de gens du voyage, que ce soit des manouches, des yéniches, très importante. Et il n'y avait pas d'événements culturels pour mettre en valeur, ce qu'ils savent faire, à la fois dans la musique, mais pas que, hein. Vous avez aussi des vanniers qui font de l'empaillage, des paniers. Enfin, c'est vraiment une culture qui est assez riche, mais qui est très peu valorisée. Et on a voulu créer un événement justement pour créer cet espace de rencontre, et dans le but de travailler sur les représentations aussi, puisque on a souvent des a priori sur cette culture. Je pense que vous avez entendu le terme déjà, les voleurs de poules, ils font de la ferraille, ils volent du cuivre, enfin, etc. Et c'était vraiment pour travailler sur ces représentations et amener un autre axe de lecture de cette culture. Voilà.
Je m'appelle François Sanclin. Je viens à la MJC depuis très longtemps. J'habite dans le quartier depuis plus de 30, peut-être 35 ans maintenant. Voilà, donc dans la vieille ville de Nancy, la MJC Lillebonne, que j'appelle moi la maison Lillebonne. J'aime bien la maison Lillebonne parce qu'il s'y passe énormément de choses. Alors ici, ça, dès que je répète pas, dès que j'ai pas aussi d'autres collaborations avec d'autres compagnies, ou que je fais pas des costumes pour quelqu'un, pour une pièce, je suis très manuel, en fait. J'ai toujours été très très manuel, donc l'idée d'avoir un atelier de couture, sachant qu'il n'y en avait pas à Lillebonne, qu'on en avait déjà parlé, et qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment ça aussi, hein. Et quand Laurent a fait sa cessation d'activité suite au Covid, et puis que c'est quelqu'un de formidable, on s'est dit, mais c'est pas possible. Donc je suis allé voir Yves, et puis il m'a montré cet endroit qui était disponible, parce que la maison est pleine comme un œuf, hein, quand même. Hein. Il s'y passe énormément de choses, et depuis très longtemps, elle a une histoire qui est forte. Et on s'est dit, bon, on va, voilà. Et moi, j'y ai vu l'idée de progressivement créer un espace, c'est-à-dire d'abord s'installer, avoir le lieu pour pouvoir coudre, pour pouvoir mettre le matériel, s'en servir. Puis, démarrer des cours de couture que Laurent donne, parce qu'il est très bon. Et puis, il aime les gens, il fait ça, il est très aimé, les cours se passent très très bien, donc 2 fois par semaine. Le vide-dressing, qui est aussi une façon de rencontrer les gens, de faire tourner, de pouvoir proposer des belles choses, de toucher tous ces matériaux-là, puis de démarrer de 2 euros à des pièces un peu de collection, comme ça, enfin bref. Et puis, il y a tellement de passages ici aussi que ça intéresse beaucoup de gens, et ça fait vraiment des rencontres incroyables. Et puis, il y a besoin de lieux. Être des poètes, des artistes sans domicile fixe, c'est d'une violence inouïe. pour fabriquer les choses avec nos mains. Et puis on connaît ça tellement par cœur. On a tous vécu ça, enfin des gens comme moi, à pas avoir d'espace, à être obligé de dormir là où on travaille. Quelles que soient les différentes activités que j'ai pu avoir et que j'espère avoir encore jusqu'à la fin. Mais on a besoin de poser, on a besoin d'apprendre sur du dur, de servir de ses mains, de... Enfin, et on a besoin d'avoir des lieux où qui sont des repères aussi. Parce que chercher, créer, c'est pas facile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Il faut entretenir et nourrir la passion. Et ça, c'est un travail de tous les jours, de tous les jours. Parce que même quand on a l'air de rien faire, ah non, on fait quelque chose, on est en train de générer quelque chose, on est en train de... C'est comme du jardinage, hein, et il faut mettre tous les ingrédients ou la cuisine pour que ça le fasse. Je pense qu'il est nécessaire aussi, que le lieu c'est très important, mais il est nécessaire aussi d'y amener quelque chose en tant que personne, d'amener une envie, d'amener du désir et d'avoir un réceptacle comme celui-là qui soit organisé, qui soit pensé suffisamment intelligemment, comme c'est le cas ici, pour être poreux à ça.
Quelle grande dame, cette Françoise. Elle est impressionnante, hein.
Et c'est génial d'avoir pu réquisitionner cet espace niché sous les toits. Il y a tellement de trucs poétiques là-dedans.
C'est vrai, c'est assez magique. Au fait, il y a un truc qui m'a interpellée dans ce qu'elle disait. Il y a encore quelques décennies, la MJC était en plein cœur d'un quartier très populaire. Et aujourd'hui, comme beaucoup de vieux centres-villes d'ailleurs, c'est plutôt devenu un quartier bourgeois.
Et donc tu veux dire que ça crée des enjeux de mixité sociale ici, un peu comme dans beaucoup de tiers-lieux d'ailleurs qu'on a rencontrés.
Oui, c'est ça.
L'avantage, c'est que la MJC, elle ratisse large et pas que dans ce quartier.
Oui, mais je crois que c'est pas toujours facile avec tout le voisinage d'ailleurs, car il y a certaines activités, projets ou esthétiques musicales qui passent mieux que d'autres, hein, il paraît.
Ça me fait un peu penser à ce que disait Mustapha tout à l'heure d'ailleurs sur la musique tzigane et sur leur envie de monter un projet justement pour changer un peu les mentalités, changer les regards sur toute la culture tzigane.
Et ce qui est chouette, c'est que ça semble inspirer la jeunesse.
Moi, je suis Gabriel Lambert, donc j'ai 20 ans depuis quelques minutes, je pense. Merci. Et du coup, ouais, je suis donc secrétaire de l'association Appellation Pantouflarde Contrôlée, qui est donc dont l'adresse est à la MJC Lillebonne. Et donc cette association, on l'a fondée avec mon groupe de musique Pouf Pouf Pantoufle. Qui du coup est né grâce à Lillebonne parce que enfin c'est que des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure de ma vie à Lillebonne quoi. C'est un espèce de microcosme dans lequel je suis rentré à la fin de mon école primaire donc il y a plus de 10 ans je pense parce que en plus c'est en fait je me suis fait virer quand j'avais genre 8 ans du conservatoire de Nancy. Et donc je me suis retrouvé à la MJC Lillebonne pour continuer de faire de la musique parce que heureusement ça m'a pas dégoûté de la musique et en fait à Lillebonne je me suis retrouvé dans différents orchestres, différents groupes de musique j'ai rencontré notamment Vincent Petit qui est justement maintenant un membre de Pouf Pouf Pantoufle et qui en fait était formateur justement à Lillebonne qui faisait de l'éveil musical qui encadrait justement des orchestres d'ados etc. Le fait de m'être fait virer et d'avoir rejoint la MJC, ça m'a montré qu'il y avait d'autres approches de la musique. Et ça m'a vraiment... C'était plus adapté pour moi parce que enfin voilà, c'est plus libre. Il laisse aussi très vite la chance de se produire sur scène par des scènes ouvertes. Il y a beaucoup plus d'expérience de groupe. Ça c'est, voilà, c'est un peu un marronnier quand on parle d'études musicales, mais... L'apprentissage du solfège aussi, il est beaucoup moins scolaire.
Ah, bah tu vois, j'ai toujours pensé que le conservatoire avait une méthode d'apprentissage de la musique parfois un peu trop coincée et pompeuse, excusez-moi du terme, mais bon, je vois que je suis pas la seule.
En attendant, la MJ, elle offre de vrais chemins de traverse pour celles et ceux à qui ce fonctionnement ne convient pas. Il y a plein d'élèves, mais des profs aussi d'ailleurs, qui disent la même chose de ça. Ils ont voulu rejoindre ce lieu pour sa liberté de faire et de créer.
C'est un véritable lieu alternatif pour toutes celles et ceux qui souhaitent développer leur talent, leur créativité et s'épanouir dans des projets plus collectifs aussi.
Et toi d'ailleurs, chère Anaïs, c'est quoi ton petit talent caché ?
Celui de lancer la conclusion de l'épisode avec panache peut-être, très cher.
Bon, moi, ce que je retiens du passage ici, c'est ça, c'est la chance, quand on est en contact avec autant de personnes différentes, etc., d'apprendre de tous ces gens-là.
C'est un phare, ce lieu. C'est un phare pour qui ? Alors, qui va voir ça ? Parce que je pense que beaucoup de gens peuvent passer à côté sans voir.
Voilà venue la fin de notre périple à la MJC Lillebonne, les amis. On était un peu dans une bulle ce week-end, non ? Tu trouves pas ?
Ouais, carrément.
Dans cet hôtel si particulier, avec sa vigne vierge qui arpente tous les murs de la cour, les concerts de musique tzigane, jusqu'au bout de la night. Ah.
D'ailleurs, moi j'ai été scotchée par ce jeune qui devait avoir quoi, genre 15 ans ? Il reprenait des grands morceaux de Django Reinhardt. Vraiment balèze, le minot. Et puis j'ai surtout vu qu'ici, c'est pas une question d'âge. Tout le monde se mélange, de 0 à 77 ans, et tout le monde est poussé à être responsable et autonome, à lancer des projets, à grandir, quoi. C'est le principe même de l'éducation populaire.
Bah, y a qu'à voir le projet de fanfare et spaghetti, ou alors les pouf-pouf pantoufles.
Ouais, je trouve que les équipes traversent un peu les mêmes problématiques qu'à Hôtel Pasteur, non ?
Ouais, t'as raison.
Le bâtiment est chargé d'histoire et hyper impressionnant. Et les portes ne sont pas forcément faciles à passer pour tout le monde.
C'est pour ça qu'il y a aussi des projets qui sortent de l'enceinte du lieu, qui vont rencontrer des gens. Justement, la fanfare participe à beaucoup d'événements et de déambulations dans les rues. Ça permet encore plus de rencontres.
Après, on est quand même bien loin de l'entre-soi ici. Ça draine quand même du monde, de tous les âges, de quartiers bien différents, bien au-delà même parfois de Nancy.
Ouais, l'enjeu qu'il porte le plus haut, je crois, c'est que ce lieu reste le plus ouvert possible et libre de ses faits et gestes pour innover, créer, et ce malgré le cadre public hein, qui peut paraître figé.
Enfin, l'enjeu du budget, c'est quand même aussi un sacré morceau. Un peu comme les tiers-lieux. Je te rappelle que depuis notre saison 1, il y a déjà plusieurs tiers-lieux dans lesquels on est allé qui ont mis la clé sous la porte. Faute de budget, c'est le même sujet ici.
Ouais, chaque année, l'équipe se bat pour maintenir les financements publics. Alors que punaise, quand tu vois tout ce que ça apporte de culture, de socialisation, d'échanges intergénérationnels...
Enfin, soutenir les tiers-lieux, c'est primordial. Mais il ne faut pas oublier ceux qui les ont précédés et qui continuent d'apporter beaucoup, beaucoup à la société, typiquement les MJC.
Tout à fait. Et surtout, ne pas mettre en concurrence ces différentes typologies de lieux. Et réfléchir plutôt en cohérence, en complémentarité. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tas de beaux lieux. Un grand merci à François Touchard pour le mixage, à Huxley Michon pour les musiques originales. Merci aussi aux merveilleuses équipes d'Hôtel 111 pour le studio d'enregistrement. Et bien sûr aux équipes de la MJC Lillebonne et particulièrement aux deux intrépides Laurence et Christelle de nous avoir accueillis pour ce séjour incroyable.
Si vous avez aimé ce podcast, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ce serait un beau coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Vos remarques, recommandations, petits mots doux nous aident à avancer. Donc n'hésitez pas à nous écrire.
Salut, salut, salut.